Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. Vous nous appelez, vous vous exprimez. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur l'avenir de la coalition au pouvoir en République démocratique du Congo. Les deux alliés qui dirigent le pays sont à couteau tiré. Ces dernières semaines, la tension est montée d'un cran entre le FCC de l'ancien président Joseph Kabila et Cash du président Félix Tshisekedi. Les deux camps ne s'entendent pas sur la réforme de la justice ou encore sur le choix du nouveau président de la commission électorale, à tel point que certaines voix appellent clairement à mettre fin à cette coalition. Alors, l'heure du divorce a-t-elle sonné? Et dans ce cas, qui serait le grand perdant? Le président Félix Tshisekedi ou l'ancien président Joseph Kabila? On a envie de vous entendre. Vos analyses nous intéressent. Vous nous appelez ici à Paris, 33 9 693 693 70. Vous êtes très nombreux à nous livrer vos commentaires sur Facebook et WhatsApp. J'ai un œil dessus en permanence tout au long de l'émission. Donc continuez à poster vos commentaires et j'en lirai quelques-uns tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, comme tous les jours, vous le savez, ce sont vos questions à la rédaction. Des questions d'abord sur Hong Kong, après le dernier coup de force de Pékin. Bonjour Alceni.
Bonjour Anne et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes en Guinée, vous nous appelez de l'Abbé. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
À Hong Kong, la loi de sécurité votée par le régime chinois à Pékin vient d'être mise en application. Comment la Chine justifie la mise en place de cette loi?
Ah, bonne question, effectivement. C'est vrai que malgré les critiques internationales, la loi sur la sécurité intérieure est entrée en vigueur à Hong Kong. Bonjour Stéphane Lagarde.
Bonjour Juan, bonjour Alcini.
Correspondant permanent de RFI dans la région. Alors c'est un texte très controversé. Ses détracteurs affirment qu'il viole le principe « un pays, deux systèmes » qui est censé garantir à Hong Kong des libertés. Comment Pékin justifie cette loi?
Au nom de la sécurité nationale. La loi, pour le coup, porte bien son nom. Et la sécurité nationale, pour le régime chinois, ça veut dire la stabilité, Alcini. L'appareil communiste a peur de l'instabilité et profite de l'épidémie, d'une certaine manière, de ce coronavirus qui est partout sur la planète et des frontières fermées pour enlever cette épine dans le pied, finalement, puisque ça faisait plus d'un an maintenant, vous en avez entendu notamment parler sur RFI, de ces grandes manifestations citoyennes des citoyens de Hong Kong, parfois 1 million, 2 millions de personnes qui descendent dans la rue pour contester l'emprise de Pékin, Pékin ne peut pas tolérer, donc cette instabilité. Oui. Alors évidemment, on parle de loi sur la sécurité nationale, on dit aussi du côté du régime chinois, bien que ces manifestations ne seraient pas spontanées, finalement, elles ne peuvent pas être naturelles, puisque on peut pas imaginer dans le régime communiste que le peuple enfant ne soit pas derrière le régime, donc ça serait forcément fomenté par l'étranger, forcément manipulé avec notamment des professeurs qui seraient influencés par les étrangers. Alors aujourd'hui, on dit qu'il faut réformer les manuels scolaires parce que les États-Unis ou des puissances hostiles à la Chine seraient derrière toutes ces manifestations. Et donc voilà, donc c'est au nom de cette stabilité qui est justifiée et au nom du patriotisme aussi. On agite beaucoup le chiffon rouge du patriotisme sur le continent. On a vu récemment notamment les canons à eau de la police à Hong Kong se arroser donc les manifestants, mais notamment les journalistes aussi, on les voyait voler en l'air sous les canons à eau, et ça a été liké sur le continent, parce que sur le continent, avec les médias d'État, n'arrêtent pas de dire que finalement c'est une affaire intérieure, Hong Kong, et que si on ne met pas d'ordre, si on ne respecte pas la stabilité, eh bien finalement les étrangers vont en profiter, il pourrait y avoir une indépendance. Donc voilà, tout ça fait que cette demande de stabilité, cette sécurité nationale, au nom de la sécurité nationale, on met derrière le sécessionnisme, on a peur également des élections. Moi j'ai été aux dernières élections à Hong Kong, des élections locales, qui ont été un succès pour les pro-démocrates. On en a très peu entendu parler dans les médias du continent. Cette information a été très peu rapportée au reste de la Chine. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne veut pas croire, encore une fois, que les électeurs puissent voter dans ce sens-là. Il y aura des élections le 6 septembre prochain, donc c'est demain, 6 septembre, des élections pour le LEGCO, donc l'organe législatif, et on ne voudrait pas à Pékin que des parlementaires soient élus au nom de la démocratie, qui est donc l'opposé de ce que pense le régime chinois.
En tout cas, les crimes contre la sécurité nationale à Hong Kong seront désormais passibles de prison à vie. Vous avez une autre question, Alceni?
Oui. Jusqu'où cette loi peut-elle porter préjudice à l'opposition à Pékin?
Ah, c'est vrai, Stéphane Lagarde, les contestataires vont désormais devoir trouver, on va dire, de nouveaux moyens de résister.
C'est le moins qu'on puisse dire. On voit d'abord qu'il y a eu un choc, vraiment, ça a été très vite, cette loi. Elle a été votée en moins de enfin en 3 semaines, ça a été décidé finalement. Donc ils ont été pris par surprise d'une certaine manière. Et on a vu un choc, l'opposition était comme sonnée. Donc ces grandes figures de l'opposition qu'on entendait souvent dans les micros et parler, eh ben là, elles sont tues. Certaines ont pris leur retraite, d'autres se sont mis en réserve, par exemple de leur parti politique, parce que s'ils étaient affiliés à ces partis politiques, ils ne pourraient plus se présenter aux élections. Ils risquent tout simplement d'être arrêtés. Hein. On l'a vu pendant dès les premières manifestations, montrer maintenant un drapeau prônant l'indépendance de Hong Kong. Ben, ça vaut arrestation, chanter par exemple les slogans et puis surtout l'hymne, ce qu'ils ont inventé, l'hymne de Hong Kong, est passible encore d'arrestation. Alors on voit aussi une grande résilience, Alcini, chez les Hongkongais. C'est assez frappant d'ailleurs l'innovation, entre guillemets, si on se place de leur côté, hein, si on se place du régime chinois, on trouve ça pas du tout marrant, mais enfin, ils inventent des choses tout le temps. Par exemple, ils ont tendu des pancartes blanches des manifestants récemment, puisqu'ils n'ont plus le droit de mettre de slogans parce qu'ils seraient arrêtés pour sécessionnisme s'ils mettaient ces slogans. Mm-hmm. Quand ils chantent l'hymne de Hong Kong, eh bien, ils chantent un autre hymne, ils mettent du yaourt, hein, ils parlent comme en yaourt, comme quand on parle pas bien anglais, on fait comme ça. Eh bien, ils mettent aussi d'autres mots, ils écrivent des mots qui ne veulent rien dire, des rébus. Et c'est comme ça qu'ils font de la résistance. Donc c'est des paroles, des slogans qui n'ont pas de sens, mais en fait qui ont un sens pour tout le monde. Tout le monde sait bien, en voyant cela, qu'ils sont bien sûr opposés à cette loi sur la sécurité nationale et au régime chinois, en tout cas à l'emprise du régime chinois.
Au régime de Pékin. Alcéni, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui.
Bonne journée alors à l'abbé, merci de vos encouragements. Stéphane Lagarde, merci infiniment d'avoir pris quelques minutes ce matin. Je sais que vous êtes en vacances, mais vous teniez voilà à être avec nous ce matin pour répondre à Alcéni.
Ça donc, fait toujours plaisir.
Profitez bien, reposez-vous Stéphane Lagarde et à très vite évidemment sur l'antenne de RFI. 10h17 ici à Paris, 33 9 693 693 70. Bonjour Julien.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Goma, en République démocratique du Congo, et vous avez des questions sur ces mystérieux drapeaux apparus la semaine dernière dans la ville de Bukavu.
Oui Juan, nous avons été surpris d'apprendre des drapeaux portant mention République du Kivu avaient été accrochés dans la ville de Bukavu le mercredi dernier. Alors, qui est à l'origine de cette action ?
Ah. Alors, qui est à l'origine de cette action ? Je ne sais pas si William Bassimike, qui est le correspondant de RFI à Bukavu, a des éléments de réponse, puisque pour l'instant, cette action n'a pas été revendiquée. Bonjour William.
Bonjour Juan, bonjour Julien.
Merci d'être avec nous, William Bassimike. Sait-on qui est à l'origine de ces drapeaux couleurs jaune, noir et bleu proclamant une république du Kivu ?
Juan, jusqu'à là, on n'en sait pas trop sur la personne ou soit les groupes qui est à l'origine de cette action, car personne ne l'a revendiqué. Ce qu'on sait, c'est qu'au lendemain du 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC, c'est-à-dire le 1er juillet dernier, les habitants de Bukavu se sont réveillés comme d'habitude tôt les matins et certains ont constaté simplement qu'il y avait des drapeaux en couleur, vous l'avez dit, jaune, noir et bleu avec une étoile blanche au milieu et qui étaient accrochés soit sur les arbres ou sur les poteaux. Ces drapeaux étaient visibles vers les collèges à Fajiri, non loin de la place Moulamba, ou au rond-point ISP dans la commune d'Ibanda, également dans l'autre commune de la ville de Bukavu, la commune de Kadutu, à la place dite Pazapa. Et ceux qui ont vu ces drapeaux étaient simplement stupéfaits, car il y avait aucun autre message à part la mention République du Kivu sur les drapeaux. Et quelques temps après, une liste est apparue dans les réseaux sociaux, et une liste qui reprenait la composition des membres du gouvernement de cette prétendue république, et avec en tête le nom de l'ancien gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Tshishambo, qui était présenté comme président de la République, et les prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege, lui aussi était présenté sur la même liste comme ministre de la Santé, mais toutes ces personnalités ont nié, ne pas connaître ce qui s'est passé. Et dans un message à Kinshasa, Marcelin Tshishambo, l'ancien gouverneur du Sud Kivu, s'est opposé catégoriquement à ces plans de balkanisation qui veut, selon lui, détacher les Kivu du reste de la République démocratique du Congo. Il a déclaré qu'il est nationaliste et en tant que tel, ceux qui veulent balkaniser le Congo devront d'abord passer sur leur dos avant de concrétiser leur plan. Et dans un autre message vidéo, le docteur Denis Mukwege, ici à Bukavu, a qualifié la République du Kivu comme un projet dénué de sens et qui ne rencontre ni les intérêts ni les aspirations de la population congolaise.
Oui, le docteur Denis Mukwege qui a dénoncé, je cite, ce fallacieux projet d'indépendance du Kivu qui vise à diviser les Congolais et à démembrer la République démocratique du Congo. En tout cas, William Bassimike, certains soupçonnent des actions venant de la part des partisans de Vital Kamerhe, le désormais ex-directeur de cabinet du président de la République.
Jusque-là, c'est difficile de le dire parce que l'UNC, ici à Bukavu, a nié cela, a rejeté toutes ces allégations. Il y a d'autres Bukaviens qui estiment tout simplement qu'il s'agirait d'une certaine frustration après la condamnation de Vital Kamerhe, élu de Bukavu, à 20 ans de prison. Et déjà, sept jeunes ont été interpellés tout au début par les services de sécurité pour raison d'enquête. Cependant, il faut aussi noter que des discussions ont, du coup, enflammé les publics et dans les réseaux sociaux sur l'importance ou pas de la division de la RDC. Il y en a qui optaient pour le fédéralisme, mais dans la plupart des réactions, en tout cas, plusieurs habitants de Bukavu ont rappelé la linéa 1 de l'article 1er de la constitution de la RDC qui stipule que ce pays, dans ses frontières de 1960, est un état des droits, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque.
Voilà pour la linéa 1 de l'article 1er de la constitution congolaise. Julien nous demandait également hors antenne tout à l'heure comment réagissaient les autorités de Bukavu et les autorités de Kinshasa.
Aussitôt qu'il a appris ce qui s'est passé dans sa province, les gouverneurs du sud Kivu, à qui les services de sécurité ont présenté les drapeaux qu'ils ont arrachés sur les arbres et les poteaux de Bukavu, a qualifié cela d'anérie et d'ineptie posée par quelques anti-civiques et antipatriotiques qui veulent simplement se faire une publicité dans les réseaux sociaux. Le gouverneur Teongo Bidje qui rassure que la situation est actuellement sous contrôle et il insiste qu'il n'existe pas une quelconque république du Kivu dans la province du sud Kivu. Il faut aussi noter que ce bruit attend les oreilles du président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, et pour lui c'est une plaisanterie de mauvais goût. Il a ajouté que jusque-là les auteurs sont inconnus mais qu'ils doivent être retrouvés et traduits en justice, Jean.
Oui, le président Tshisekedi qui dénonce un acte ignoble. On aura certainement l'occasion d'en reparler vendredi dans la Libre Antenne, puisque vous, le vendredi, vous le savez, vous commentez l'actualité de votre choix. Julien, bonne journée à Goma. William Bassimike, merci d'avoir été avec nous en direct de Bukavu, 10h23 à Paris. Marie-Amélie Motte du service des sports de RFI me rejoint à l'instant. Bonjour Marie-Amélie.
Bonjour Juan.
On va parler football et des questions concernant la Ligue des Champions. Abdoulaye, soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes à Conakry, nous vous écoutons.
Juan, la Ligue des Champions doit être jouée en août avec un nouveau format à Lisbonne au Portugal, mais un reconfinement est en cours autour de la capitale à cause du coronavirus. Comment l'UEFA gère ses incertitudes sur le bon déroulement de la Ligue des Champions? Un report de la compétition ou sa tenue dans une autre ville est-il envisagé?
Alors, bonne question que vous posez, effectivement, la Ligue des Champions reprogrammée du 12 au 23 août. Championnat qui est, on le voit bien, rattrapé par la crise sanitaire, Marie-Amélie Motte. 700 000 personnes invitées à rester chez elles. Ce sont 19 quartiers de la banlieue de Lisbonne qui ont été reconfinés. Est-ce que la Ligue des Champions est une nouvelle fois menacée?
Alors, pour l'instant, l'UEFA affiche une certaine sérénité et assure être en contact permanent avec la Fédération portugaise de football et les autorités locales. Aucune raison d'envisager le déroulement de la Ligue des Champions dans une autre ville ou même de songer à son report. C'est la ligne officielle de l'instance européenne pour le moment. La semaine dernière, le patron de l'UEFA, Alexander Seferin, s'est exprimé dans un communiqué. Il n'y a pas besoin d'un plan B pour la Ligue des Champions au Portugal ou la Ligue Europa en Allemagne. La Ligue Europa, c'est la C3, la petite Coupe d'Europe. Antonio Costa, le premier ministre portugais, s'est lui aussi montré rassurant. Il a assuré que toutes les mesures seront prises pour accueillir ce tournoi de façon saine et sécurisée. Donc pour l'instant, les dirigeants tiennent à se montrer très optimistes, sauf pour la question du public. Il y a encore deux semaines, l'UEFA pouvait espérer avoir un peu de monde en tribune. Aujourd'hui, avec la situation à Lisbonne, c'est inenvisageable. Et ça a été dit très clairement par le secrétaire d'État à la Santé, Antonio Lacerda Sales. C'était la semaine dernière. Il a indiqué que le gouvernement prendrait des mesures proportionnelles à l'évolution de la pandémie.
Donc, les matchs se joueront visiblement à huis clos. Vous avez une autre question, Abdoulaye?
Oui, Juan, quelles sont les réactions des équipes qui vont jouer face à cette recrudescence de cas?
Alors,
sont-elles inquiètes pour leurs joueurs?
Les huit clubs encore en course, Marie-Amélie, ont-ils réagi à cette situation à Lisbonne?
Alors, ils sont peut-être inquiets, mais pour l'instant, il n'y a eu aucune communication officielle. Je rappelle que tous les championnats majeurs en Europe ont repris, à l'exception de la France. Donc, les joueurs, les entraîneurs, les staffs se sont habitués à jouer dans ces nouvelles conditions, le huis clos, le masque, toutes les règles sanitaires à respecter. Et ce sera évidemment pareil à Lisbonne. Donc, finalement, il n'y aura pas vraiment de différence, à part, bien entendu, le déplacement jusqu'au Portugal qui va peut-être poser question. On le verra. En attendant, le tirage au sort du tournoi final a lieu ce vendredi le 10 juillet. J'en rappelle les modalités. Quart de finale, demi et finale sur un match unique. Pas de match aller-retour. Donc ce sera du 12 au 23 août. Vous l'avez dit, des dates très importantes pour tous les fans sevrés de foot depuis 3 mois.
Oui, ils ont besoin de voir du football. Attention, il faut quand même préciser que tous les huitièmes de finale retour n'ont pas eu lieu.
Non, il en reste 4. Barcelone-Naples, Juventus-Turin-Lyon, Manchester City-Real Madrid et Bayern Munich-Chelsea. Alors l'UEFA aurait aimé que ces matchs se jouent à Lisbonne également, mais avec les dernières nouvelles, il apparaît plus simple de les organiser là où ils étaient prévus, chez les équipes qui se sont déplacées au match aller, c'est-à-dire le Barça, la Juve, City et le Bayern. Ces huitièmes de finale retour auront lieu les 7 et 8 août. Et pour terminer, je vous rappelle les équipes qui se sont déjà qualifiées pour les quarts. Le Paris Saint-Germain, pour commencer, l'Atlético de Madrid, l'Atalanta Bergame et Leipzig.
Merci beaucoup Marie-Émilie, Amélie Mott, d'être venue répondre à Abdoulaye, à qui on souhaite une belle journée, à Conakry. Il en reste 4 minutes. Allez, une dernière question en ce mardi matin. Fred, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Brazzaville.
Effectivement.
On vous écoute, soyez le bienvenu.
Des escrocs ont mis en place un système d'arnaque en ligne en faisant croire à des personnes qu'elles achetaient des œuvres d'art africaines certifiées par l'UNESCO, mais qui ne parviennent jamais. Mmh. Alors, comment fonctionne le système mis en place par les escrocs pour vendre ces fausses œuvres d'art? Comment l'UNESCO peut lutter contre cette bande d'escroquerie autrement qu'en mettant en garde?
Oui, c'est vrai que l'UNESCO appelle à la plus grande vigilance après avoir découvert que son logo avait été frauduleusement utilisé dans un trafic d'œuvres d'art africaines. Bonjour Cédric Bourgeois.
Bonjour Juan, bonjour Fred.
Vous êtes le chef de l'unité enquête à l'UNESCO. On parle d'une vingtaine de victimes. Le montant cumulé des préjudices est estimé à plus d'un million d'euros. Que sait-on du scénario élaboré par les escrocs? Que savez-vous du mode opératoire?
Oui, alors des individus établissent le contact via les réseaux sociaux avec des personnes qui souvent ont des liens avec l'Afrique francophone, des liens familiaux ou des liens professionnels. Et puis des discussions s'engagent, de proche en proche, ça glisse vers l'art africain de façon très habile, et l'interlocuteur met alors en relation un vendeur qui, justement, propose des statuettes ou des objets d'art pour lesquels un intérêt a été manifesté. Alors parfois, ce sont des œuvres d'art qui sont issues d'un trafic illicite et qui sont accompagnées de faux certificats de l'UNESCO pour faire croire à leur légitimité, mais souvent, ce sont des statuettes sans valeur particulière et qui n'arriveront jamais. Le but est alors de faire entrer la victime dans une spirale de dépenses pour obtenir ces fameux faux certificats de l'UNESCO, pour obtenir l'autorisation du chef de village, ou encore pour obtenir de soi-disant opérations de dédouanement auxquelles l'UNESCO serait partie. Bien sûr, tout ça est faux. L'UNESCO n'émet jamais de certificat pour du commerce d'œuvres d'art. Nous n'intervenons pas dans le commerce privé. Et ce type d'arnaque, en fait, repose sur un imaginaire trompeur de la chasse au trésor ou des chefs-d'œuvre oubliés qui seraient disponibles sur le marché. Mais en s'engageant sur cette voie, l'acheteur risque de prendre part à des trafics illicites. Mais bien souvent, il ne reçoit rien.
Rien du tout, effectivement. Et c'est ce qui est arrivé à une vingtaine de personnes. Comment l'UNESCO, en une petite minute, Cédric Bourgeois, on est pris par le temps, comment pouvez-vous, à votre niveau, lutter contre ces trafics?
Bon, mais la prévention est clé. Donc, merci Fred pour vos questions qui contribuent à la vigilance. On ne s'arrête pas là, bien sûr. Comprenez que ces escrocs ne s'arrêtent que lorsqu'ils sont arrêtés par la police. Donc, on invite systématiquement les victimes à déposer plainte auprès des autorités judiciaires. Nous coopérons aux enquêtes. Puis ensuite vient l'action structurelle de l'UNESCO pour la protection du patrimoine culturel. Cette année, nous fêtons les 50 ans de la Convention de 1970 qui permet de prévenir et de lutter contre les trafics illicites d'œuvres d'art. Là, notre rôle, c'est de faciliter la coopération entre les États, qui est aussi clé pour les enquêtes, d'assurer le partage des informations, la mise en œuvre des mesures à prendre. L'UNESCO aide les pays à renforcer leurs lois nationales, organise des formations auprès des ministères concernés, des services de police, des douanes, des professionnels de musées, puis ces relations nous aident aussi à aider les victimes.
En tout cas, Fred contribue à sa façon, à travers sa question justement, à sensibiliser le grand public. Merci infiniment, Cédric Bourgeois, chef de l'unité enquête à l'UNESCO.